Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonjour à toute l'assistance. Voilà. Vous savez que... Et vous en avez la conviction... Que Jésus revient bientôt.
Amen.
Vous avez préparé vos bagages, vos, tout ce qu'il fallait, carte de crédit, carnet de chèque, etc. Bon, on va vérifier ça parce qu'autrement vous ne passez pas à la douane. Non, non, rassurez-vous. Les choses sont de longue date préparées et vous pouvez faire confiance au Seigneur parce qu'il n'a qu'une parole. Et même... Ces paroles ont été écrites, donc vous avez quand même quelque chose qui là, eh bien, correspond tout à fait à ce que nous avons besoin de savoir. Alors, nous allons en effet évoquer un sujet ce matin, et c'est tout à fait dans le cadre de notre monde d'aujourd'hui, c'est sûr, le sort final des nations. Alors, on a parlé dernièrement du sort d'Israël avec la venue du Messie. Alors, vous en souvenez pas, hein, c'était au moment de Noël que nous avions fait ça. Et nous pouvons dire aujourd'hui que ben, les choses avancent. Et c'est vrai. Le monde est dans une perpétuelle perplexité parce que le doute est là. Le monde est dans l'angoisse, comme la Bible le dit. Les nations seront angoissées devant la mer et les flots. Et nous allons en effet eh bien, mettre un troisième volet à la chose. Nous avons parlé du Messie reconnu par Israël, ce qui n'est pas encore, hein, mais ça se fait, ça va se faire. Alors nous allons introduire dans le livre des Hébreux une lecture très brève, chapitre 10, versets 35, 37, ou même 35, puisque je viens de le dire. Alors, Hébreux, chapitre 10, versets 35, recommandation à tous, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Si vous voulez, un grand prix. Car vous avez besoin de persévérance. Jusqu'à la fin, c'est moi qui y rajoute. Hein. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, c'est ce que nous nous employons jour après jour à être dans les conditions les meilleures pour plaire à Dieu. Vous obteniez ce qui vous a été promis et on y arrive. Verset 37. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et rassurez-vous, il ne tardera pas. Et mon juste, ce que nous sommes les uns et les autres, il vivra, mais pas de n'importe quelle manière. Il vivra par la foi. Il ne vivra pas par ses bonnes œuvres, parce qu'il est bien, parce qu'il est bon, parce que il est véritablement généreux et tout ce que voudrait multiplier de mérite et autres, non, il vivra par la foi. Et la foi, c'est ce que nous croyons dans ce que Dieu nous a dit et a accompli par Jésus. Par la foi. Mais s'il se retire, s'il lui venait l'idée à un moment ou un autre de découragement, ou je ne sais quel, eh bien, séduit par un attrait quelconque, le matérialisme, l'argent, les folies, enfin, multiples des hommes. Mais s'il se retire, alors à ce moment-là, Dieu ne peut plus trouver son plaisir, finalement, dans cette âme-là, dans cet homme-là, dans cette femme-là, dans cette créature qu'il a sauvée. Il ne peut plus trouver son plaisir en lui. Et nous, en ce qui nous concerne, et vous faites partie justement de l'Assemblée ce matin, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, parce que mes frères et sœurs, on a fait déjà un si long voyage pour certains. Certains viennent de se convertir, de se faire baptiser. C'est tout frais, c'est tout neuf. Hein, on peut dire ça comme ça. Mais il y en a parmi nous, des frères et des sœurs, s'ils regardent à leur compteur de vie spirituelle, ils peuvent dire, mais moi, ça fait 40 ans que je suis converti. Ça fait 50 ans. Ça fait 60 ans, 70 ans. Ben oui, pourquoi pas? Peut-être même plus, d'ailleurs. Alors, ils ne se retirent pas pour se perdre parce qu'ils ont mené la course. Ils ont été jusqu'au bout. C'est les premiers médailles d'or aux Jeux Olympiques spirituels. Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme ou leurs âmes, leur âme. Alors Jésus revient. Marquons le fait. Et nous pouvons nous interroger. On vit tous dans un monde, on est quelque part des hommes les uns comme les autres, hein, croyants ou non, hein, peu importe, quelles que soient nos origines, notre couleur de peau, et peu importe. Mais nous nous intéressons aussi, parce que la Bible nous en parle, c'est la Bible qui nous a suscité cette question. Que va devenir le monde? Que va devenir, que vont devenir les hommes? Que vont devenir les non-croyants? Que vont devenir les chrétiens qui, quelque part, se disent chrétiens, mais n'en ont que le nom, mais qui, quelque part, dans la vie, n'en ont pas les réalités concrètes parce qu'ils n'ont jamais, au grand jamais, se préoccuper, ils ne se sont jamais préoccupés de Dieu s'il existe. S'il est vivant, il reste incrédule et de marbre devant toutes les proclamations qui sont faites, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ils n'ont jamais peut-être ouvert la Bible. Et ça ne les intéresse pas parce qu'ils disent tout ça, ce sont des mythes et des histoires. Alors, quel est le sort de ceux qui sont incrédules, rebelles, je dis bien, hein, rebelles à Dieu, et qui, à main levée, font comme Pharaon, où Pharaon est prévenu du grand danger qu'il menace, mais il y va quand même. Alors voilà, donc la Bible est assez claire dans ce domaine. Et puis, il y a un autre texte qui est beaucoup plus explicite. Si vous voulez, on peut l'ouvrir dans Jean. Ça, c'est la situation hein, que je suis en train de mettre devant vous. Jean, chapitre 14, bien connu. Chapitre 14. Et verset 3. « Je vais vous préparer une place. » Eh oui. « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Et écoutez, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » On ne peut pas dire que pour nous chrétiens, nous ne pouvons pas dire que nous ignorons. On a lu la Bible, on l'a relue, etc. Elle fait partie finalement eh bien, de notre livre essentiel pour notre vie. Et nous voyons qu'il nous dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Alors c'est rassurant pour ceux qui cherchent un logement aujourd'hui. Mais attendez, hein, pour l'instant c'est ici, c'est pas là-haut. Alors, Jésus nous le dit d'une manière tout à fait particulière. Je vais vous préparer une place. La place est préparée pour chacun. Et nous avons déjà notre nom inscrit à la porte, enfin, si vous voulez. Hein? Oui, oui. Et si ce n'était pas vrai, Jésus va surenchérir et va dire, si ce n'était pas vrai, si c'était un racontard, un mensonge, fake news, eh bien, je vous aurais dit que c'était faux. Mais moi, je vous dis que c'est vrai. Confortez-vous par ces paroles, mes frères et sœurs. Alors, nous allons parler du sort final des peuples, des nations. Pour l'instant, ça ne va pas trop bien. Excusez-moi, mais je voudrais vous dire que ça n'a jamais été bien. Il y a toujours un pays par-ci, par-là, qui l'a, eh bien, fait des siennes, imbu de sa puissance, de sa richesse et de toutes sortes de vanité et d'orgueil. Et nous sommes dedans, hein. On ne peut pas dire le contraire. J'aimerais déployer pour vous qui, quelquefois, êtes curieux de l'Apocalypse, Mais bien sûr, il faut être curieux de l'Apocalypse. Pour vous qui espérez, finalement, dans cette parole, parce que ce n'est pas une parole de condamnation, l'Apocalypse. Ce n'est pas une parole de jugement. C'est une parole d'espérance pour les chrétiens et un avertissement pour ceux qui ne le sont pas encore, pour qu'ils le deviennent. Et non pas par les terreurs, les angoisses que nous démontre ce livre, mais pour dire, moi je vous ai préparé une place, quelque chose de bien. Vous pleurez sur la terre, mais vous chanterez d'allégresse de l'autre côté. Déroulement de la venue de Jésus en deux étapes. Alors, ça peut-être est un petit peu très simple hein, pour ceux qui ont des années de conversion, mais on va le rappeler. C'est bien de le faire. Il y a une phase que j'appellerai la phase numéro 1, que l'on appelle l'enlèvement de l'Église. Ah, ça, c'est quelque chose. D'abord l'Église, ceux qui appartiennent à Jésus, ceux qui sont hors du monde, tout en vivant dans le monde et en vivant finalement eh bien, de toutes les nécessités du monde. Hein, on n'est pas des gens renfermés dans soit dans notre tête ou soit peut-être même dans nos corps. L'enlèvement de l'Église, eh bien, c'est véritablement l'enlèvement de tous les rachetés. Qu'est-ce qu'un racheté ? Un racheté, c'est quelqu'un qui a entendu le message de l'Évangile, qui à un moment donné a fait foi à ce message, qui quelque part a été attiré et lui-même s'est approché de Jésus pour qu'il devienne son sauveur personnel par une confession de foi, bon, matérialisée par le baptême, mais ce n'est pas l'essentiel. Mais toujours est-il que c'est ça un racheté. Et qui a fait une promesse, la profession de foi est plus importante, hein, dans cette... par rapport au baptême, je veux dire, mais c'est fait en même temps, qui a fait profession de foi de donner sa vie à Jésus, de vivre toute sa vie selon les principes que Jésus nous enseignait et que j'ai pu découvrir dans la manière dont Jésus a vécu, et je vais vivre comme lui. Ça s'appelle, là, à ce moment-là, un développement de notre vie intérieure, la nouvelle naissance, naître de nouveau. Et ensuite, il y a comme une couronne qui est posée sur notre tête. Attendez, ne rêvez pas. Hein. Mais une chose qui est certaine, c'est ce qu'on appelle le baptême ou l'effusion du Saint-Esprit, où Dieu n'est pas seulement avec nous, mais il est en nous. Et on l'appelle le paraclète, en grec, mais le consolateur. Et il est là tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est ça, les rachetés. Bon, c'est simple. Et Jésus va revenir, donc, dans les airs. Alors, je ne sais pas quel avion il va prendre, un Boeing ou Airbus, enfin bon, voilà, il y a des problèmes là, en ce moment aussi. Il va venir dans les airs en un instant. Les hommes savent qu'il revient, mais ils ne savent pas quand. Ils ne savent pas comment, ils ne savent pas où. Mais il va apparaître dans le monde entier, dans la sphère, finalement, de notre planète. Et les chrétiens messianiques, donc les juifs, d'abord, ceux qui ont cru, qui ont reconnu leur Messie. Les chrétiens convertis que nous sommes d'origine païenne, mais convertis à Jésus-Christ, et nous ne sommes plus des païens, mais nous sommes des chrétiens, vont à la rencontre de Jésus. Nous serons enlevés, le mot enlèvement. Alors là, c'est quelque chose que je ne pourrais pas vous expliquer. Hein. Alors, est-ce qu'on aura des petites mini-fusées dans le dos? Non, mais je regarde trop la télévision avec mes petits-enfants. Voilà. Mais bon, vous oubliez tout ça. Alors, on ira à la rencontre, on sera comme un magnétisme, nous serons emportés parce que la puissance de la personne de Christ qui apparaîtra dans le ciel sera tellement forte que nous serons emportés à sa rencontre. Et à ce moment-là, rassurez-vous, si quelquefois le chrétien doute de lui-même, il ne se sent pas bien, il ne se sent pas bon, etc., il va y avoir par l'œuvre du Saint-Esprit une transformation immédiate en un clin d'œil. Je ne fais pas ça aux dames. Hein. Voilà, en un clin d'œil, ça va vite. Hein. Voilà, en un clin d'œil. Quelque chose d'instantané, quelque chose de sidérant. Eh oui. Et nous serons transformés dans un corps glorieux, délivré de toutes nos contingences maladives, de tous nos tourments intérieurs, de nos dépressions, de nos tristesses, de toutes nos angoisses, de toutes ces calamités que nous portons depuis notre naissance, les uns plus que d'autres, il faut le reconnaître. Voilà, transformation immédiate dans un corps glorifié qui va nous servir pour habiter au ciel dans un autre corps. Voilà, un corps céleste. Relisez 1 Corinthiens chapitre 1er et vous verrez ce qu'il en est dit. Et nous serons à ce moment-là, définitivement pour l'éternité, nous serons à l'image parfaite de Christ. Nous lui ressemblerons dans, naturellement, eh bien, toutes ces qualités intérieures, morales et tout ça. Ça sera le bonheur et ça sera la perfection. Ça sera l'infini pour nous. On n'en parle plus, on n'est plus là. D'accord ? Mais ceux qui vont rester. Ça sera la deuxième phase. Parce qu'il y en a qui vont partir, nous. Et il y a une deuxième phase qu'on appelle tout simplement la parousie. Ouais. La parousie, c'est véritablement, eh bien là, la seconde venue de Jésus. Je tiens à préciser, Jésus revient en deux sphères, en deux phases, pardon, en deux phases. La première, on vient de le dire, vous êtes d'accord. Et la deuxième, eh bien, ça sera encore d'une autre manière. À ce moment-là, sur la terre, dans notre monde, ensuite, il y aura ce que l'on peut appeler la colère de Dieu. Il y a la grâce de Dieu, il y a la colère de l'agneau, il y a la colère, finalement, de Dieu, et interviendra au terme de 3 ans et demi d'une période de persécution et de 3 ans et demi qui va emmener, enfin à ce moment-là, la première phase, on verra la première phase, 3 ans et demi, et la deuxième phase, 3 ans et demi, ça fait 7 ans. C'est les chiffres parfaits de la Bible. Hein. Voilà. Donc nous serons enlevés dans la première partie de 3 ans et demi. Mais il y aura un phénomène à la fin des 7 ans, on peut dire comme ça, un phénomène. Et ça en prend un peu l'allure aujourd'hui, mais c'est peut-être pas non plus encore, hein. Moi je veux rien affirmer, hein. Ce que l'on appelle la bataille d'Hermageddon, qui mettra un terme à, finalement, la dimension et également la dispensation de notre monde d'aujourd'hui. Voilà. Il y a eu pendant l'Ancien Testament le temps de la loi, il y a eu pendant le Nouveau Testament le temps de la grâce, les deux. Il y en a qui ont préféré faire la loi et puis faire leurs efforts pour être sauvés. Mais nous, on a dit, Seigneur, il n'y a rien à faire. Hein. On est perdu parce qu'on le sent à l'intérieur de nous-mêmes. On est mauvais, on n'est pas bon. Mais Jésus est venu à notre place pour mourir à notre place et nous remplacer. Il a été notre substitut devant Dieu. Et nous sommes maintenant au bénéfice de la justification. Donc, Dieu nous fait justice à travers le sacrifice de Jésus. Le sang de Jésus, si vous voulez. Et il y aura à la fin, toute fin de la deuxième période, donc la parousie, ce que l'on appelle Hermageddon. Et là, ce n'est pas forcément facile à saisir. C'est la bataille finale et la ruine soudaine pour le monde. Le monde, comme à Babel, qui a commencé confusion des langues, et puis après tout le reste hein, qui en a découlé. Et aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle Babel, avec tout l'armement, les prétentions des hommes, etc. Enfin, tout est imprégné de feu et de sang. Hein. Ouais. Et nous voyons que ce sera la ruine des nations incrédules et rebelles qui, point levé, diront « Dieu n'existe pas, ni Dieu ni diable ». Ce sont les libres penseurs qui disent ça. Et puis il y en a d'autres, hein. La sorcellerie, tout ce monde de l'occulte, des ténèbres, etc., etc. Ni Dieu ni diable. Donc, nous voyons qu'il y aura naturellement des origines à tout cela et des causes à la baptême suprême. Les hommes vont vouloir dominer l'homme. L'homme va vouloir faire de son semblable un esclave auquel il sera servi pour de grandes idées d'un monde réunifié, d'un monde où il n'y aura qu'une puissance. Ce sera la puissance humaine, la puissance d'un homme, on le verra, avec un système, la bête, l'antéchrist. Et puis, tout le reste qui va avec, pour diriger les nations. Donc, la cause et origine de la bataille suprême. La situation d'Israël sera envahie. Alors, on entend beaucoup de choses. Et je ne parle pas pour l'actualité uniquement, hein, parce que moi, j'en sais pas plus que vous. Hein. Et j'en sais pas plus, finalement, que le reste des hommes. Hein. Même ceux qui dirigent les nations qui sont en conflit aujourd'hui, ils ne savent pas ce que sera demain. Hein. Et s'ils savaient qu'ils n'ont qu'un souffle de rien du tout. Alors, Israël sera envahi. Et je peux vous dire que c'est pas la première fois qu'on essaie d'envahir Israël. Hein. C'est en permanence depuis des siècles et des siècles. Alors, il sera envahi par toutes les nations coalisées, les uns, les autres. On dira, une fois pour toutes, à l'unisson, tous ensemble, détruisons et supprimons le nom d'Israël de dessus la surface de la terre. Ça, c'est l'Ancien Testament. Hein, les Ammonites, tout ce que vous voulez, hein, Philistins, et puis tous les autres. Voilà. Voilà. Et vous verrez qu'il va y avoir une alliance avec les pays occidentaux aussi. Donc, envahi par toutes les nations coalisées pour la destruction du peuple les élus. Et la raison de cette destruction, c'est que vraiment, Israël, c'est vraiment le caillou dans la chaussure du monde. Vous avez déjà fait une course avec un caillou dans la chaussure ? Même un tout petit caillou ? Ben essayez cet après-midi, puis vous me direz ça un autre jour. Hein ? Voilà. Donc, ça empêche de marcher le monde, hein, Israël. Et on se dit, mais pourquoi cette nation ? Vous savez qu'Israël, c'est à peu près grand comme la Bretagne. Et ils ont une puissance de... Parce qu'ils ont été, naturellement, des pays amis. Mais ils ont une puissance, et déjà en eux-mêmes, avec leurs savants, avec leurs grands noms de prix Nobel, etc., etc. Et ça a toujours été, hein, de toute façon. Alors, il y a des gens qui sont jaloux, pour ceux qui réussissent. Mais il y a beaucoup de souffrance aussi, hein, pour Israël. La Shoah, c'est finalement le dernier souvenir que l'on peut avoir. Et aujourd'hui, ils sont prêts à faire exactement la même chose. Les ennemis d'Israël. Donc, la raison. La haine des Juifs. Et puis, il y a quelque chose aussi. C'est la convoitise de ce pays. Parce que des terres, il y en a. Hein. Il y en a d'autres terres où des peuples peuvent s'installer d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. Hein. Ce n'est pas forcément notre meilleure raison. Hein. Avec la colonisation, on a vu des terrains. On a vu que c'était des... Vous savez, comme Lot qui regarde au fond de la vallée là en disant bah, « Tiens, je convoite le fleuve du Jourdain et tout ça. » C'est une image. Mais aujourd'hui, on a fait ça avec les colonies. Et puis, de prendre aussi les richesses qu'il y avait dans ces pays-là et de les assujettir. Et ça s'est mal terminé, que ce soit pour les Anglais, les Français, les Allemands, d'une manière ou d'une autre. Hein, ça s'est mal terminé. Hein, les Américains, là-bas, avec leurs sioux, là, avec leurs plumes. Et puis, les Espagnols, dans l'Amérique latine. Et puis, on peut le multiplier, de toute façon. Alors, les raisons, c'est justement la convoitise et la jalousie. Et quand on regarde un petit peu ce que les Hébreux ont pu faire en tout temps, et encore aujourd'hui, faire fleurir le désert. Ça, faut le faire. Moi, je suis allé, c'est pas pour me vanter de mon voyage, mais on a pu voir là quelque chose de formidable. Là où il n'y avait que de la poussière, là où il n'y avait que du désert, là où il n'y avait que finalement quelques bergers là avec des troupeaux qui sont en errance, eh bien, ils ont fait des forêts même dans le désert. Des forêts, vous vous rendez compte, dans le Négev. Et puis, sur la vallée du Jourdain, en collaboration avec la Jordanie, là, ils ont été intelligents, hein, les Jordaniens. Et ils ont fait, mais véritablement, un couloir extraordinaire où il y a des arbres fruitiers, il y a des choses formidables. Et ils vendent tout cela dans le monde entier. Jaffa, par exemple, vous connaissez. Et les ressources du sous-sol. Un jour, il y a un gars qui creuse la terre. Un gars, oui, enfin bon, un bédouin, si vous voulez. Hein. Et il creuse et il trouve finalement de l'eau noire. Oh, misère, qu'est-ce qu'il n'avait pas trouvé là ? Hein, le pétrole. Et puis le reste. Et le reste. Alors, les richesses du sous-sol. Et tout ça, ça a été la convoitise de toutes les nations. C'est pas seulement des Arabes, des musulmans et tout ça. Mais nous aussi, on y a été, on a couru. On a fait couler le sang pour du pétrole. Et on a dit que, et les Juifs, et la Bible nous dit, le plus beau de tous les pays du monde. Si vous avez l'occasion, attendez un petit peu pour l'instant, allez faire un petit tour en Israël. C'est pas mal. C'est pas mal. D'un désert, ils en ont fait un Éden. Mais pas le même Éden que le premier. Parce que ça marche toujours pas bien. L'Éden dans Israël d'aujourd'hui. et encore moins un paradis. Parce qu'Israël, ce n'est pas le paradis, je peux vous le dire. Il faut y vivre. C'est assez particulier. Alors, on va dire deux mots sur le crime, sur les crimes et les châtiments des agresseurs. Les moyens dans l'histoire, les moyens de Dieu pour punir les hommes, pour les réfréner dans leur avidité de mort. Oui, ils aiment la mort. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui se promènent, je ne critique pas, hein, mais qui se promènent avec des têtes de mort dans le dos, sur la poitrine, sur les bras, etc. Ouais. Nous, on aime la vie. Ouais. On n'a pas besoin de porter des insignes qui nous montrent notre tendance, notre dérive. Hier, eh bien, c'était l'eau du déluge. Et aujourd'hui, et demain, hélas, ça sera le feu. On commence à nous dire que ça commence à chauffer dur. Hein. Ça va, là, il fait bon hein, ce matin, là, dans la salle. Mais peut-être qu'on sera obligé de, là, dans nos cultes, de faire des vandalisations et toutes sortes de choses. Je voudrais maintenant vous parler des deux royaumes, parce qu'il est question des royaumes, deux royaumes de la fin des temps. Alors, Jésus nous a prévenus. Je reviendrai, il y aura des séducteurs, il y aura des faux prophètes, il y aura ceci et cela, il y aura des guerres, mais il y en a toujours eu, et ce n'est pas fini, et il y aura donc des blocs. Un royaume se liguera contre un royaume, et un empire se liguera contre un empire. On commence à rentrer véritablement dans la vision, eh bien là, des empires aujourd'hui. Il y en a quelques-uns que l'on peut désigner. Hein. Il y a d'abord le grand empire occidental, fait par l'Europe et puis les Américains. Il y a l'empire de Chine. Il y a l'empire maintenant qui apparaît. Et attention, ils sont pas très nombreux, mais ils sont les Indes. Ça y est, ils ont dépassé la Chine maintenant. Et puis il y a naturellement, eh bien là, l'ours russe. Et ça commence à s'affronter. Alors les deux royaumes de la fin des temps, le premier est noté par le mot, est appelé, mentionné par Gog et Magog. Alors je ne suis pas rentré dans les détails, mais j'ai cherché quand même un petit peu. Gog et Magog, c'est un empire venant du septentrion, c'est-à-dire du nord, par rapport à Israël, naturellement, puisque c'est le... Hein. Et ses alliés dans la Bible s'appellent Rosh, Méchec et Tubal. Ce sont tous les peuples ou les royaumes ou les empires qui viennent de l'Orient ou le Péril Jaune. Vous avez entendu parler du Péril Jaune ? Et puis la deuxième confrontation, David et Goliath, on peut dire, ou je ne sais pas dans quel sens on peut le donner, mais le deuxième, c'est les peuples de Tarsis. Ça vous dit quelque chose hein, dans le Nouveau Testament, Tarsis. Et Tarsis, par rapport à la vision que l'on peut avoir quand on est en Israël, c'est le bout de la Méditerranée, c'est l'Espagne, c'est l'Europe, vous voyez, toute cette région-là qui... Et c'est l'Occident, donc en présence pour l'ultime bataille. Ils seront là, les uns contre les autres. Il faut qu'il y en ait un qui perde, hein, de toute façon, quoi qu'il en soit. Et le sort final de l'humanité va être scellé par cette conflagration. Et il y aura quelque chose de commun, autant les démocraties, autant les dictatures, le fascisme et tout ce que vous voudrez, auront à la fin une inimitié spirituelle contre Dieu et Jésus. À travers les religions. Qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que c'est la religion du Christ qui véritablement est mise à l'honneur ? Non, c'est la religion, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit bouddhiste, qu'elle soit hindouiste, qu'elle soit taoïste, hein, ça c'est vraiment l'extrême-orient, ou alors islamiste, tout simplement. Mais il y aura une inimitié spirituelle contre le vrai Dieu, la vraie parole de Dieu. Et là, ils vont être d'accord, contre Israël, naturellement, qui lui détient finalement les principes, pas complètement. Tant que Jésus n'aura pas reçu son Messie, eh bien, il est en dehors. Il erre encore parmi les nations. La diaspora n'a pas été encore rassemblée, mais ils se rassembleront au moment là où il va y avoir eh bien, ce que nous avons dit tout à l'heure. Et Jésus nous dit « Je viens bientôt ». mes frères et sœurs. Jésus ne tarde pas. Jésus vient vite. Mais Seigneur, depuis combien de temps, de siècles, de décennies nous t'attendons? Mais les choses sont en train de se préparer parce que le Seigneur sauve encore des âmes aujourd'hui. Et il veut que la maison soit pleine. Parce qu'il y a encore beaucoup d'appartements à louer. Non, pas à louer. Et ils sont gratuits. Alors, comment ça va se passer? Je fais encore un rappel. D'abord, l'enlèvement des rachetés, les juifs messianiques qui auront accepté Jésus comme leur Messie, et les chrétiens nés de nouveau, et ceux qui auront cru, ce sont ceux qui auront cru et accepté l'appel du Seigneur. On va maintenant en arriver à la deuxième question que j'avais mis de côté, c'est la parousie. C'est-à-dire tout simplement l'apparition visible aux yeux du monde entier. Quand Jésus va revenir sur les nuées, l'Église va être enlevée, mais on le verra, mais il ne mettra pas les pieds sur terre. Par contre, elle sera réellement visible lors de la parousie, apparition visible aux yeux du monde entier. Alors là, les gens vont être sidérés. Oh, waouh ! Et ils le verront tous en même temps, sur toute la surface de la terre, au nord, au sud, à l'ouest, à l'est, ça sera quelque chose que les hommes n'auront jamais vu, eh bien, dans l'histoire de l'humanité. Alors, il est question justement de la parousie, parce que ça va, autant nous serons enlevés pour être bénis, autant les autres vont recevoir, les rebelles et les incrédules vont recevoir, finalement, le prix de leur rébellion. Et c'est à ce moment-là que ça va se passer. Le Messie Sauveur pose ses pieds sur le mont des Oliviers à Jérusalem. Tout est le centre, Jérusalem, le mont des Oliviers. Et Jésus va descendre le mont des Oliviers et il va rentrer par la porte d'or, une des nombreuses portes qui est fermée depuis 2000 ans. Les portes à Jérusalem sont ouvertes, mais celle-ci, elle est fermée depuis 2000 ans, depuis l'ascension de Jésus. C'est ce qu'on appelle la porte d'or. Et elle va être ouverte. Et il va faire comme la première fois, quand il est descendu. Il était au mont des Oliviers, après avoir prié, etc. Et il va aller de l'autre côté de la ville pour être crucifié sur le mont Golgotha. Mais il va passer par la porte d'or pour faire le sacrifice, finalement, de nos péchés. Alors, Jésus va revenir sur terre avec des légions d'anges. Ouais, des légions d'anges. Il reviendra avec nous. On sera là. On le verra. Mais nous serons dans un corps glorifié. Et il y a cette autre catégorie de créatures angéliques que l'on appelle les anges. Alors vous allez me dire, mais Alain, c'est un doux rêveur. Hé hé. Hein ? Un papa cool ? Tout est beau, tout est formidable. Non, c'est pas formidable, hein, parce qu'autrement, je ne prêcherais pas l'évangile depuis que je le fais. Hein. Non, c'est des avertissements solennels. Et nous voyons que là, eh bien, Jésus va revenir avec des légions d'anges, ai-je dit, environnés de la gloire céleste. Je peux vous dire qu'il y en a plus d'un qui vont se retrouver sur eux. Ils vont dire, mais c'est pas possible. Et il va y avoir certainement des conversions de dernière minute à ce moment-là. Mais est-ce que ça sera des vierges folles ou des vierges sages? Donne-nous de la lumière, donne-nous du feu pour éclairer nos lampes. Et il y aura certainement une diversité, mais ça, ce n'est pas moi de répondre, parce qu'il y a que Dieu qui sait. Hein. Ce n'est pas à nous de dire celui-ci et celui-là, hein, ce n'est pas ça. Le Christ, le Messie, anéantit l'Antéchrist. Vous savez, l'Antéchrist, c'est ce personnage qui a toujours existé, qui a toujours passé à travers les pages de la Bible depuis Pharaon, et même avant Pharaon, naturellement, hein, pour dominer le monde, de dire « Dieu, c'est moi ». Et il va avoir de la puissance. Il va y avoir un rayonnement extraordinaire. Ça va être un peu, si vous voulez, l'interface du Christ, mais dans tout le mal, dans la mort, dans la violence, dans la guerre, dans le sang, dans le feu, etc. C'est ça l'antéchrist, antichrist. Et il va anéantir donc l'antéchrist et son système et ses acolytes. Parce qu'il a du personnel, hein, l'antéchrist, hein, je peux vous dire. Hein. Jésus avait 12 disciples. Et puis après, il y a eu le monde entier, l'Église. Mais là, je peux vous dire qu'il y a du monde qui le suit. Hein. Des gens pervers, des gens vicieux, le mal, des choses diaboliques, des cultes occultes, toutes sortes de divinations, toutes sortes de choses. C'est deux mondes. Et moi, je voudrais vous le dire encore. Il y a deux mondes, deux mondes invisibles, deux mondes spirituels. Il y a le monde de Dieu et il y a le monde diabolique, ténébreux. Et au milieu, nous sommes là, le monde humain. Et puis, quand vous lisez le livre de Job, vous comprenez bien que notre tête est mise à prix tous les jours. Hein. Mais, grâce à Dieu, mais le Seigneur nous garde et nous protège. C'est ce que nous vivons tous les jours. Alors, il va y avoir ce règlement de compte pour l'antéchrist et le mal. Et c'est la fin des nations cruelles. C'est la fin du mal, c'est la fin de la mort. Les nations qui sont belliqueuses, les nations qui sont guerrières, les nations que l'on peut acheter, appeler les nations du sang. Et jusqu'où peuvent aller la pensée humaine lorsque l'on voit, par exemple, les camps de concentration en Chine aujourd'hui ou en Russie et encore hein, avec la dernière guerre mondiale. Comment peut-on s'imaginer qu'un homme, un homme, avec toute une troupe de cinglés, il ne faut pas dire autrement, de malades, de schizophrènes, comment ces gens-là peuvent-ils éliminer, comme des moutons que l'on emmène à la boucherie, dans les fours crématoires, 6 millions. Et il va apparaître une nouvelle période, parce que là, ça va être terminé, la porte va être fermée, hein. Et cette nouvelle période est appelée le millénium. Alors, ce n'est pas 10 jours. Ne vous rassurez-vous, ce n'est pas 10 mois. Ce n'est pas 12 mois. C'est le millénium. Et 1000 ans. Alors, il y en a qui se posent la question en disant, mais qu'est-ce qu'on va faire là-haut? Qu'est-ce qu'on va faire là-haut? Le millénium. Eh bien, c'est ce qu'on a appelé dans le livre des Actes le rétablissement de toutes choses, tout ce qui a été défait dans le livre de la Genèse, avec la faute d'Adam, etc., etc. Et Adam a eu droit au salut, hein, quand même. Hein. Parce qu'il y avait un personnage qui était encore plus terrible, c'était le diable. Vous savez, le serpent, là, celui qui... Rétablissement de toutes choses. Et là, mes frères et sœurs, réjouissez-vous. Si je vous dis la paix, vous en voulez ? Si je vous dis l'ordre, parce qu'aujourd'hui, moi, j'avais pensé me rentrer dans la police ou dans les gendarmes, mais je porterais pas de képiche, je serais repérable. Hein. L'ordre. Ah oui. L'amour. L'amour à son zénith. La situation d'Israël, situation spirituelle. Jérusalem sera la capitale du monde. Aïe, aïe, aïe. Ouh lolo, oh, je peux vous dire que ça va être quelque chose. Hein. Oui, oui, capitale mondiale ou une nouvelle création, par-delà cette nouvelle création que nous avons eue sur Terre, une nouvelle création avec une nouvelle créature qui sera faite d'anges, d'hommes, et nous, vous voulez savoir ce que vous allez faire, nous adorerons Dieu et son Christ. Il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre. Bravo pour les écologistes. Ils vont être contents. Hein, plus de bouteilles en plastique dans les ruisseaux. Et puis les poubelles qui ne sont pas vidées, comme certaines villes du sud, là, pour chercher les... Ils avaient mis une flamme cette semaine, là, pour voir hein, où ils en étaient. Nouvelle terre, dans la perfection. Et ce n'est pas fini, parce que c'est long l'éternité, hein, vers la fin. Hein. Oui, c'est long, hein. Pour l'éternité. Le mal, le péché, la maladie, la mort ont disparu pour jamais. Merci Seigneur. Vous voulez aller au ciel? Oh là 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 là. Ah ben là, moi je vais être obligé de rempiler. Hein. Conclusion. Au moins il va se taire là. Je voudrais vous lire, s'il vous plaît, un passage. Prenez patience. C'est la prophétie de Daniel sur la nouvelle terre, les nouveaux cieux, ce que l'on appelle la bénédiction messianique. Daniel, chapitre 2. Vous savez, il s'est fait du travail, hein. Bon, les gens me disent, Alain, tu sais plus quoi faire maintenant depuis que tu es en retraite. Ouais, 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 ouais. Alors, Daniel, chapitre 2. Je prends le temps quand même de le lire. verset 34. Voilà. C'est pas tout à fait ça, hein, je vois. J'ai dû me tromper. 34-35. Hein, voilà. Alors, en ce qui concerne la chute du monde, c'est Daniel qui reçoit une vision de Dieu et qui se rapproche à ce que nous avons dit tout à l'heure. Tu regardais Daniel lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent, l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà ce qu'il nous est proposé. Dans le livre de l'Apocalypse, il nous est dit ceci. Heureux celui qui entend les paroles de la prophétie, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie, et le témoignage de Jésus nous dit la vérité. Amen. Jésus a toujours été à travers tous les temps et le développement de l'humanité. Il nous a dit toute la vérité. Parce que Dieu, en Jésus, est saint. Il est saint. Alors, je reviendrai sur deux passages. C'est Armageddon. J'ai donné les deux royaumes tout à l'heure. Hein. Mais Armageddon, dans l'Apocalypse, chapitre 6, verset 12, c'est un avertissement. « Cachez-vous devant la colère de l'agneau le grand jour, parce que le grand jour est venu et les rachetés participeront, non au jugement, mais aux noces de l'agneau et plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Mes frères et sœurs, lors de notre enlèvement, nous allons à un mariage de l'Église, de la fiancée, de l'épouse qui est l'Église de Jésus-Christ, et nous allons aux noces de l'agneau dans le ciel. Ça, c'est une réjouissance. Donc, on n'est pas condamné. Hein. Plus de condamnation. Et moi, je voudrais insister sur une chose, mes frères et sœurs, qui pensaient et qui est toujours culpabilisé pour un oui, pour un non. Arrêtez. Arrêtez. Vous attristez le Seigneur. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ah ouais. Et là, vous allez rentrer déjà... Eh bien, quelque part dans une partie du ciel. Je veux dire, parce que vous n'allez plus avec des tourments, avec des interrogations, je ne fais pas ceci, je ne fais pas ça, etc., etc. Absolument, les noces de l'agneau. Et le millénium, eh bien, comme son nom veut le dit, il règne pour 1000 ans, les 1000 ans de Jésus sur terre. Les temps messianiques nous sont donnés, hein, dans, eh bien, Ésaïe, et c'est ça ce que je recherchais particulièrement, dans Ésaïe, chapitre 35, je vais l'avoir, naturellement. Écoutez bien ce qui nous attend dans les temps messianiques et dans les temps célestes messianiques, au ciel. Écoutez, je prends le temps. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaiera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie. Avec des chants d'allégresse et cris de triomphe, la gloire du Liban lui sera donnée. La magnificence du Carmel et du Saron, ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux dont le cœur est troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, elle viendra, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Pensez à l'évangile quand Jésus est venu. Hein. S'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y a là un chemin frayé, une route qu'on appelle la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. sur cette route, point de lion, nulle bête féron la prendra, nul ne s'y rencontrera, les délivrés y marcheront, les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront, et ça c'est le retour d'Israël dans son pays, depuis 1948, ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête, l'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements cesseront. Et à ce moment-là, après le millénium, Satan, qui a été enchaîné, nous l'avons dit tout à l'heure, avec l'Antéchrist et puis la bête, le faux prophète, alors à ce moment-là, il reviendra encore une fois, comme il l'avait fait dans le Jardin d'Éden, et il va encore agir pour séduire une dernière fois l'humanité, et ce sera la fin, et viendra le jugement dernier avec les trônes, le trône blanc, où les uns iront vers la mort, la seconde mort, et puis les autres iront vers le paradis de Dieu, dans la félicité de Dieu. Voilà. Ça, c'est comme ça que les choses vont se passer. Alors, naturellement, hein, une interprétation tout à fait simple. Mais je pense que le Seigneur revient bientôt. Et vous avez déjà un schéma. Et vous pouvez faire des petites études chez vous. Hein. Il y en a des bouquins sur l'Apocalypse et sur les prophéties et toutes sortes de choses. C'est très intéressant. Mais moi, je n'ai pas voulu aller en profondeur. Hein, parce que bon, il y a quand même des choses. Puis si vous voulez relire l'Apocalypse, si vous voulez. Mais là, je vous demande du courage. Hein, parce que nous avons fait une étude. 22 chapitres, j'en ai mis deux de plus parce que j'ai trouvé que c'était pas assez. Mais on a passé 2 ans et demi dans les réunions du mercredi soir, hein, où on avait quand même un bon petit auditoire pour apprendre à connaître l'Apocalypse. Et moi, j'en ai gardé naturellement, c'est sur CD, c'est diffusé, hein, de toute manière. Et je pense qu'aujourd'hui, de par le rapport que je suis en train de vous faire, vous savez, aujourd'hui, ça marche très très fort, hein, sur le site, notre site internet, parce que les gens sont véritablement, et c'est un test d'angoisse que l'humanité a, ils veulent savoir ce qui va arriver demain. Alors que le Seigneur vous bénisse. J'espère que je ne vous ai pas fait peur, et que véritablement, eh bien, vous puissiez garder ces choses en mémoire. Mais moi, il y a une chose, hein, je ne suis qu'un homme et une parole, mais une chose qui est certaine, c'est que le Saint-Esprit vous rappellera toutes ces choses. Que Dieu vous bénisse. Alors, on va prier. Merci. Merci pour votre attention. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que nous savons que tu viens bientôt. Tu viens vite même, Seigneur. Mais nous voulons croire, Père éternel, qu'il y a probablement encore, eh bien, tant de choses qui vont se réaliser. Mais c'est toujours dans la soudaineté. C'est dans le tout à coup que tu agis. En effet, alors, c'est vrai, tu nous dis, nous ne savons ni le jour ni l'heure. Mais peu importe, Seigneur. Tu nous en as dit suffisamment dans ta parole pour que nous puissions nous tenir prêts. Et puis il y a une chose, c'est pas de connaître véritablement à fond les choses, mais une chose, c'est de connaître Jésus. Parce que c'est lui qui est véritablement le reflet, eh bien, de la connaissance universelle et éternelle. Merci mon Dieu, merci de nous avoir donné Jésus. Amen.